Mais c'est celui du vendredi en plus.
Quelle heure?
À 19h. Attends que j'appelle ma grand-mère. Tu lui dis de mettre le 102.2. La plus rebelle des radios. La plus rebelle des radios. Waouh.
C'est gros, c'est bleu, ça fait pas de bruit, ça se cache derrière le cimetière la nuit. Ça te surveille, ça te suit, ça te guette. Si tu portes une casquette, c'est derrière toi quand tu conduis. Ça veut débarquer ton permis, ton vol, polémique et ton fichier. C'est tout le temps vénère et c'est mal poli. Ça te saute à la gueule comme une grosse bête. Un monstre chelou avec trois têtes. Prends mis ta chute dans une estafette. C'est quoi? C'est quoi?
C'est qu'un info.
Canu 102.2. Canu Info du vendredi.
Canu, donne-moi des infos.
C'est 102.2, la radio plus ribelle.
Paniquez pas. Canu Info du vendredi.
Canu Info du vendredi, avec un petit décalage sur l'heure, mais on va y arriver. Les joies du direct, et oui, car l'équipe du vendredi est réunie ce soir en direct à Radio Canu dans ses beaux locaux.
Et donc là, ce soir, on va parler dans un premier temps, parce qu'il y a quelques petits soucis. Ouais. Donc, localement, on va vous parler d'un rassemblement qu'il y a eu dans le budget à l'occasion du tristement célèbre 35e anniversaire de Tchernobyl.
Ensuite, on va parler d'Italiens et d'Italiennes qui ont été arrêtés en France.
On parlera aussi de viol au commissariat du 19e à Paris.
Ensuite, on vous parlera de cookies et on ne vous parlera pas de gâteaux.
Et ensuite, on parlera de l'eau qui est contaminée et relâchée à Fukushima.
Et enfin, un petit agenda pour bien finir la semaine et commencer la suivante.
Et puis le ACAB, surtout. D'ailleurs, on t'entend pas.
Donc, on a un cumul de bugs techniques.
Donc, là, on embraye direct.
Sans jingle, sans rien.
C'était quoi le jingle? Je peux le fredonner si tu veux.
Jingle local.
Ah, merde, je me souviens plus.
Rubrique locale.
Et après, on peut parler du doc qu'on va diffuser, mais qui, bien sûr, n'arrive pas à naviguer.
Ah, bah oui, parce que c'est ça. Mais je peux présenter le petit documentaire pendant que tu farfouilles.
Ouais.
Donc, ça s'est passé le 24 avril de cette année. Donc, c'était à l'occasion du 35e anniversaire de Tchernobyl. Et l'association Sortir du nucléaire Bugey organisait donc une action sur un rond-point de Belay, qui est une petite bourgade à une trentaine de kilomètres de vol d'oiseau de la centrale, de la fameuse centrale du nucléaire. Et donc, on a des envoyés spéciaux qui étaient sur place et qui ont fait une petite prise de son de ce rassemblement. Est-ce que le son est revenu ? Ah, et ben super.
Où on est, tu sais mieux que moi, toi.
Oui, alors donc on est au rond-point des deux C à Belay.
Alors aujourd'hui, donc nous, association SDN Bugey, Sortir du nucléaire Bugey, on est là dans le cadre du triste anniversaire de Tchernobyl, puisque ça fait 35 ans, c'était le 26 avril 1986. Et c'est vrai que comme quand il y a eu Fukushima au mois de mars, on avait fait une action aussi sur Ambérieu avec plusieurs ronds-points occupés. Et c'est vrai qu'on profite entre guillemets de cette actualité. On va dire international, qu'est l'anniversaire de Tchernobyl, pour rappeler aux habitants de Belay qu'on a une centrale nucléaire qui n'est pas très loin, même si on ne la voit pas. On est dans un rayon à vol d'atomes à 30 km et que si un jour il y a un accident majeur nucléaire, on sera très concerné à Belay. Donc c'est aussi pour rappeler ce danger incarné par la centrale qui, du coup, pour nous, présente de plus en plus de dangers car elle est de plus en plus vieillissante. C'est la plus vieille centrale maintenant après l'arrêt de Fessenheim.
Cette occupation de rond-point, elle fait suite à une recrudescence nécessaire de la lutte, puisque en fait, il y a 6 EPR qui sont en projet au niveau de la France, et donc ça hypothèque complètement le développement des énergies renouvelables. Donc on est vraiment, on veut mobiliser la population là-dessus, puisqu'il n'y a jamais eu de débat, donc il va falloir le demander. Voilà.
Le site nucléaire du Bugey, c'est un vieux réacteur Bugey 1 qui est en phase de démantèlement, mais EDF, c'était la filière graphite gaz, mais EDF ne sait pas le démanteler. Et puis après, il y a 4 réacteurs qui ont été démarrés en 1978 et 1979, donc qui ont dépassé les 40 ans d'âge, et ils sont en phase de quatrième visite décennale pour les prolonger de 10 ans supplémentaires.
Il y a des éléments, des organes essentiels dans une centrale qu'on ne peut pas réparer ou changer. Enfin, on peut réparer, mais comme la cuve, on ne peut que la rafistoler, mais on ne peut pas changer une cuve. On va laisser passer les sirènes. Donc là, c'est la centrale qui est en train de brûler. On va laisser passer la force d'action rapide du nucléaire. Donc là, on est en direct d'un accident nucléaire. Voilà. Et donc, du coup, cette centrale avec cette vieille cuve et cette vieille enceinte de confinement qui, elle aussi, ne peut pas être changée. Elle peut être éventuellement réparée, mais pas changée. Les centrales nucléaires, initialement, étaient prévues pour durer 25 à 30 ans avec une période de sûreté de 10 ans. Donc, ça nous mène à 40 ans, mais pas 50 ou 60 ans. Donc, pour nous, c'est une hérésie de continuer. Alors, bien sûr, on nous dit que la SN a donné son feu vert. Oui, sauf qu'il y a des très grosses pressions économiques sur la SN parce que, malgré tout, il y a quand même, malgré tout, un lobby du nucléaire qui veut continuer à poursuivre l'activité de ces centrales. Donc on pense que la SN est quand même un petit peu coincée entre son devoir de sûreté, de respect de sûreté du nucléaire et les injonctions économiques.
À Bugey, le total, c'est qu'il y a 274 irrégularités sur les cuves et les générateurs de vapeur du site, ce qui nous inquiète quand même beaucoup. Après, il y a aussi un peu des fissures sur les cuves. Il faut savoir que la cuve ne se remplace pas du tout. Donc elle est irradiée fortement, donc elle vieillit, l'acier se fragilise. Il y a aussi, sur un réacteur, il y a 2 générateurs de vapeur qui ont trop de carbone. Ils ont été fabriqués par les Japonais et ils sont donc fragilisés en cas de choc thermique important. Donc il y a quand même plein de problèmes pour les prolonger, plus plein de petits incidents.
Voilà, il y a ce problème-là. Et le deuxième problème, c'est la possibilité d'avoir des EPR, donc des nouveaux réacteurs, dans le cadre de la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, à l'horizon 2030-2035, il est question de fermer des réacteurs nucléaires, des vieux réacteurs. Bugey ferait partie de ces fermetures, mais il n'y en aurait que 2 qui seraient fermés. Et à côté, on construirait donc des nouveaux réacteurs nucléaires de type EPR, c'est ce qu'on a à Flamanville. Ces EPR là, ça veut dire European Power Reactor. Alors maintenant c'est plus européen parce que les Allemands se sont retirés. C'est en fait des super réacteurs de 1300 MW, actuellement c'est 900, de type de celui qui se fait à Flamanville. Il y en a 6 qui sont prévus et l'État est en train de regarder où est-ce qu'il va mettre ses EPR. Récemment, les élus du département de l'Ain et les élus du conseil communautaire de la Plaine de l'Ain ont appelé de leur vœu. En gros, ils ont dit nous on en veut, pensant que eux, élus locaux, pouvaient décider de la politique énergétique de toute une région. Donc actuellement, EDF est en train de préempter des terrains tout autour de la centrale, d'acquérir des terres agricoles et puis au niveau des carrières, pour éventuellement implanter deux réacteurs. Et donc, bien sûr, nous, on est monté au créneau pour dénoncer ce fait. On pense que des élus locaux, ce n'est pas dans leur prérogative de finalement décider de l'avenir de millions de personnes pour 50 ans. Les trois axes pour lesquels on est là, donc, c'est la prolongation des réacteurs, les EPR, et le dernier, c'est quand même ICEDA. ICEDA, c'est cette plateforme qui va accueillir des flux radioactifs, qui commence déjà à accueillir des flux radioactifs, issus du démantèlement des vieux réacteurs, et puis à terme des déchets nucléaires. Et ça, c'est à Bugey. C'est-à-dire que c'est une ICEDA, ça veut dire installation de conditionnement d'entreposage de déchets activés. Donc initialement, c'est tous les matériaux dans les réacteurs qui ont été soumis à la radioactivité. Ce n'est pas des déchets de production comme à la Hague, par exemple. Ce n'est pas du combustible.
Si vous voulez, dans le réacteur lui-même, vous avez les barres de combustible, mais il y a plein de barres métalliques, soit les barres de contrôle, soit d'autres barres, qui sont très, très irradiées et qui, pour le moment, sont stockées dans les piscines des réacteurs, les encombres. Et là, on va les transporter. C'est des barres qui font 5 mètres de long, hein, quand même, ce n'est pas une bagatelle. On va les transporter et à ICEDA, ils vont les tronçonner en petits morceaux pour les mettre dans des conteneurs béton pour les entreposer ensuite, quoi. Alors l'entreposage, il est prévu pour 50 ans. C'est en fait l'antichambre du futur stockage définitif dont on parle à Bure, Cigéo, mais qui est aussi, lui, fortement contesté.
Cette installation va générer beaucoup de pollution radioactive de par les transports, de par le conditionnement sur place. Donc voilà, donc pour toutes ces raisons, donc nous on s'était battu contre ICEDA, on avait même fait des recours en justice, ce qui fait que le chantier a été interrompu pendant plusieurs années, donc on a gagné du temps, parce qu'au départ ça devait entrer en fonction en 2015, et puis bon, on a gagné du temps, mais on a quand même perdu, on a été débouté au Conseil d'État, mais toujours est-il que ça a permis aussi de communiquer sur cette problématique des déchets.
En fait, on est face à une industrie qui n'a jamais prévu le devenir de ces déchets, ni comment démanteler ces réacteurs. En fait, l'énergie nucléaire, elle est présentée d'une manière très, très simplifiée aux gens. C'est-à-dire qu'on leur dit, bah, en gros, il y a un réacteur, il y a de la chaleur qui se dégage. Et on considère l'énergie qu'à partir de cette chaleur dégagée. On oublie tout ce qu'il y a avant. C'est-à-dire parce qu'avant, il faut d'abord exploiter de l'uranium. Ça se fait à l'étranger puisque toutes les mines en France sont épuisées. Il faut savoir que quand on exploite de l'uranium, c'est un tout petit grain dans une grosse masse comme ça. Donc il y a beaucoup de stériles. Donc ça demande aussi beaucoup d'énergie. Ces stériles sont radioactifs, restent. Les populations au Niger, entre autres, sont toutes contaminées par les poussières radioactives des mines, autour des mines. Après, il y a tout le transport. Après, l'uranium, il arrive en France à Malvézy, où il commence à être traité par des aspects chimiques. Après, il va partir à Tricastin pour être enrichi. Après, il va à Romans pour être mis dans des barres de combustible. Et après, il y a les barres de combustible dans le réacteur. Donc, vous voyez déjà qu'il y a une certaine complexité.
Et donc, où on peut dire que le nucléaire contribue au réchauffement climatique et qu'il y a plein d'autres études, une en particulier dernièrement, parue en octobre 2020, de l'université de Sussex, où globalement, si on va vers des énergies renouvelables sur un pays, globalement, une politique énergie renouvelable, il y a bien moins, jusqu'à 7 fois selon certains pays, 7 fois moins d'émissions de gaz à effet de serre que dans un pays où il y a le tout nucléaire. Il faut rappeler que la France, c'est le pays le plus nucléarisé, hein, avec 58 réacteurs, dont combien sont en fonctionnement, en réalité
56 pour le moment.
56 en ce moment, voilà.
Les deux de Fessenheim sont arrêtés.
D'accord, ouais. Donc, voilà. Puis après, quelque chose qui va aussi à l'encontre, c'est qu'évidemment, pour répondre à l'énergie, à la consommation globale d'énergie, il est absolument impossible de... Ça serait de toute façon impossible de répondre... par des constructions équivalentes. Mais le problème, c'est qu'en allant, en construisant 6 EPR, on va sans débat sur la question, et au contraire, en augmentant les besoins par la voiture électrique, par exemple, on va vers l'augmentation de l'industrie nucléaire.
Nous, on pense qu'on peut fermer des réacteurs sans les remplacer. Donc c'est tout le problème. On nous dit, oui, mais si vous fermez la centrale, il faudra mettre une centrale à charbon ou mettre des milliers d'éoliennes. Ou... On pense que, bien sûr, il faut développer le mix énergétique, ça va de soi. Mais il faut arrêter de raisonner en « je ferme un réacteur, qu'est-ce que je mets à la place ?» En fait, on est en surcapacité de production de courant. En fait, on exporte le courant. La grande majeure partie du temps, on exporte du courant pour faire de l'argent. Donc c'est d'abord une décision politique et financière. Et donc, comme on ne veut pas renier là-dessus, eh bien on dit « non, on ferme une centrale, on en fait une autre ». Et c'est toute la problématique. En fait, on est visible par des milliers de personnes quand on occupe des ronds-points. Parce que là, si on fait les comptes de 9h à midi, c'est des milliers de personnes. Nous, on développe ce genre d'action pour justement, avec peu de personnes, être vu par beaucoup. C'est un peu ce moyen de communication qu'on a trouvé. Voilà, et puis après, on a d'autres projets. On a un projet de manifestation plus classique et plus rassembleuse et de plus grande envergure pour l'automne. Début octobre. Après ça, peut-être, on vous recontactera parce qu'on ferait peut-être ça à la fois sur Lyon, le matin, le samedi 2 octobre et l'après-midi au Bugey. Donc on reviendra vers vous.
Du graphite sur le toit, 4 plaques de métal fin qui masquent mon effroi. On m'a mis des gants puis on m'a dit balance le graphite en bas. Donc j'attends et il fait chaud. Une à une, je vois revenir des silhouettes de robots. Et leurs mains étranges ne se ferment plus. Elles tenaient des pelles là-haut. À plus que deux, et c'est mon tour. Un sagot dans la bouche, sensation de métallot. Comme la pelle que je tiens dans mes mains. Ça y est, je sors et il fait chaud. Retourne-toi et reviens sur tes pas. Un pas de pas, mais tant pis, la pelle est vite au bord du toit. Balance tout en bas, retourne-toi et c'est fini pour toi. Hey. Où est mon sang? Où sont mes mains? Où est mon sang? Hey. Où est mon sang? Où sont mes mains? Où est mon sang? Hey. Où sont mes mains? Je suis vidé de tout mon sang. Hey. Où sont mes mains? Je suis vidé de tout mon sang. Métal fin qui masque mon effroi. On m'a mis des gants puis on m'a dit balance le graphite en bas. Et donc j'attends et il fait chaud. Une à une je vois revenir des silhouettes de robots. Et leurs mains étranges ne se...
Je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes.
Il y a d'un côté un nouveau totalitarisme. Et c'est nous.
C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit.
Révolution ! Révolution ! Révolution ! Révolution ! Révolution !
alors, le mercredi dernier, le 28 avril, 7 Italiennes et Italiens, dont d'anciens membres des Brigades Rouges, ont été interpellés en France. Ces arrestations ont été menées à la demande de l'Italie pour des actes considérés de terrorisme commis pendant les années de plomb. Ces personnes, dont d'anciens membres des Brigades Rouges condamnés en Italie, donc dans les années 70-80, faisaient l'objet d'un mandat d'arrêt et ils ont été interpellés en France donc le mercredi passé à la demande de l'Italie. Selon la même source, 3 autres brigadistes également condamnés n'étaient pas à leur domicile et donc sont encore recherchés. Les autorités italiennes avaient demandé l'extradition de 200 individus des militants venus se réfugier en France après ces années de plomb, qui étaient marquées par des attentats et des violences, surtout entre les années 1968 et 82, mais cette demande n'avait jamais donné suite en France. C'est Mitterrand, l'ancien président, qui s'était engagé verbalement en 85 pour ne pas les extrader, et c'était donc appelé la doctrine Mitterrand. Mais là, depuis les années 2000, le gouvernement français a engagé un dialogue avec les autorités italiennes sur cette question, et les demandes d'extradition présentées par l'Italie, notamment par des anciens membres des Brigades Rouges, sont réexaminées au cas par la justice française, et notamment les situations concernant les faits les plus graves. L'Élysée a expliqué que Emmanuel Macron souhaitait régler ce sujet, ce que l'Italie demandait depuis des années, en donnant le prétexte que la France aussi était touchée par le terrorisme, et que donc il était nécessaire de faire justice dans, je cite, l'impérieuse nécessité de la construction d'une Europe de la justice dans laquelle la confiance mutuelle doit être au centre. La ministre de la Justice italienne, Marta Cartabia, avait transmis officiellement le 8 avril dernier au garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, que la requête des autorités italiennes était urgente, était une urgence pour ne pas laisser impunis les attentats des Brigades Rouges. Selon la presse italienne, certains d'entre eux risquaient en effet de voir leurs actes prescrits. Toujours selon plusieurs médias italiens, Macron aurait ensuite eu une conversation téléphonique avec le Premier ministre italien Mario Draghi, qui lui aurait confirmé l'importance de cette affaire pour Rome. Ce dernier a exprimé mercredi sa satisfaction face à la décision de la France de lancer les procédures judiciaires demandées par l'Italie. Les personnes arrêtées en France, accusées d'être responsables de très graves crimes de terrorisme, ont laissé une blessure qui est encore ouverte, a rappelé donc M. Draghi dans une courte déclaration. La justice doit maintenant se prononcer sur leurs extraditions au cas par cas. Les ex-brigadistes arrêtés doivent être représentés devant le parquet général de la Cour d'appel de Paris avant qu'un juge ne statue sur leur détention éventuelle ou bien leur remise en liberté sous contrôle judiciaire, au moins le temps de l'examen par la justice des demandes d'extradition italiennes. L'avocate de 5 de ces 7 personnes interpellées mercredi, donc dernier en France, à la demande de Rome, a dénoncé mercredi cette opération comme une trahison innommable qui s'apparente à une mini-rafle. Pour l'avocate Madame Terrel, c'est la France qui leur a donné l'asile, les autorités de droite ou de gauche confondues et non pas François Mitterrand. Et elle déclare que depuis les années 80, ces gens-là sont sous la protection de la France, ils ont refait leur vie, etc., et que d'après elle, c'est irrecevable en plus en termes de droit. Les ex-brigadistes doivent être présentés, alors ça je l'ai déjà dit, et ce dossier a ressurgi au moment du retour en Italie de Cesare Battisti, qui a été capturé donc en janvier 2019 en Bolivie, puis extradé en Italie, après près de 40 ans de cavale en France, puis au Brésil. Le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, avait alors affirmé que la France abritait depuis des décennies des assassins ayant tué des innocents et réclamé le retour en Italie d'une quinzaine de terroristes italiens qui ont été condamnés mais ont la vie belle en France selon lui. Éric Dupond-Moretti a déclaré qu'il n'avait aucun état d'âme et même qu'il était fier de participer à cette décision.
Ah non, mais en fait, je crois qu'on t'entend pas. Mais du coup, là, on va passer au sujet. Alors, parce qu'on ne sait pas si on t'entend pas, mais je pense qu'on t'entend pas. On va passer à un sujet. Donc, on va parler. On a un petit son qui nous était envoyé sur le viol qui a eu lieu au commissariat du 19e à Paris.
Le 5 avril, une personne, on va l'appeler Tommy, est interpellée par des policiers du 19e arrondissement de Paris. Au moment de l'arrestation, puis pendant sa garde à vue, deux fonctionnaires le frappent et le violent. Ça n'a pas été facile pour Tommy de témoigner de ce qu'il a vécu. Son témoignage a finalement été récupéré par les médias Street Press et Le Média. On vous en passe des extraits.
Je m'appelle Tommy, je suis un jeune issu de banlieue. J'étais en garde à vue dans le commissariat du 19e et j'étais violé par les policiers durant ma garde à vue.
Tommy nous a raconté dans le détail les coups et le viol dont il a été victime dans un commissariat parisien. Tout commence le 5 avril dernier. Ce jour-là, le jeune homme de 23 ans rend visite à un pote qui habite le quartier. Sur le trajet, des policiers lui font signe de s'arrêter. Tommy refuse de s'exécuter, il prend la fuite. Le véhicule de police le poursuit sur quelques centaines de mètres, le percute. Bloqué en travers de la route, Tommy se laisse interpeller. Deux agents le menottent et le font monter dans leur véhicule. C'est là, sous le regard de plusieurs autres policiers, que ces deux fonctionnaires vont l'étrangler et le frapper une première fois.
Je suis amené, je suis menotté, je suis ceinturé, je suis au milieu du véhicule. À ce moment-là, j'ai un policier qui est sur ma gauche et il y a un policier qui monte dans le coffre. Il faut savoir qu'en fait, les nouveaux véhicules, c'est des SUV qui sont vraiment assez grands. Le policier qui était monté à l'arrière, en fait, j'ai été monté pour m'étrangler. Et à ce moment-là, en fait, il m'a fait une clé de bras. C'est-à-dire qu'il a entouré mon cou avec son bras et qu'il m'a serré aussi fort qu'il pouvait à ce moment-là, parce que c'était vraiment violent. Et le policier qui était sur ma gauche, il m'a vraiment mis plusieurs coups de poing, des coups de poing vraiment très violents. Et moi, en fait, j'étais toujours au milieu du véhicule, menotté, ceinturé. Ça a duré une trentaine de secondes, je me regardais dans le rétroviseur, et là, en fait, je voyais ma vie basculer parce que le policier qui était à l'arrière, qui me disait « T'es mort, tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir. » Et quand on vous étrangle et qu'on vous assène plusieurs coups de poing, même si vous y croyez pas, vous êtes obligé d'y croire au bout d'un moment.
Tommy est ensuite transféré au commissariat du 19e arrondissement. Après quelques formalités, il est emmené dans une salle pour être fouillé. C'est là que les deux mêmes fonctionnaires vont à nouveau le passer à tabac et le violer.
J'enlève ma veste, j'enlève mon pull, je les enlève un à un, vient un moment du caleçon. Il faut savoir que quand vous êtes en garde à vue, il y a certains policiers qui vont vous demander de baisser le caleçon pour vérifier si vous avez quelque chose ou non, et d'autres qui n'ont pas forcément envie de voir le sexe de l'homme ou de voir les fesses d'un homme, donc ils vont plutôt vous dire non, il n'y a pas de souci. Donc ça veut dire que je me tourne vers le policier et je lui dis à ce moment-là, caleçon, le policier me répond oui. Ok, ça ne me pose pas de problème. Je baisse mon caleçon. Si on parle d'une question de principe et de logique et de loi, la fouille devrait s'arrêter là, parce qu'à ce moment-là, je baisse mon caleçon, je n'ai rien sur moi. Mais sauf que là, le policier me demande de me retourner, de me baisser et de m'accroupir. Moi, je réponds au policier, au vu de mes antécédents, au vu de tout ce qui m'est arrivé dans ma vie, on ne me l'a jamais fait celle-là et que ce n'était pas aujourd'hui que ça allait commencer. Le policier me demande est-ce que je suis sûr, une première fois. Je lui réponds oui que je suis sûr. Il me redemande une deuxième fois est-ce que je suis sûr et je lui réponds oui, je suis sûr. Et de là, les deux policiers se jettent sur moi. Et à ce moment-là, il y en a un qui m'étrangle, qui me prend au niveau de la nuque, qui me fait aller au sol en me faisant une clé de bras. Ce policier-là continue de m'étrangler pendant que le deuxième policier m'a asséné. Mais là, franchement, des coups que j'ai eu plusieurs blessures dans ma vie. Je me suis déjà tendu le genou, je me suis déjà luxé les épaules. Mais là, ces coups-là, en fait, ils étaient vraiment violents. Et là, je me dis, en fait, qu'est-ce qui m'arrive? Comment ça va se terminer? J'ai entendu plusieurs histoires. Dernièrement, il y avait l'histoire de George Floyd qui est mort asphyxié. Il y a aussi eu des histoires où il y a eu des homicides dans des commissariats et je me dis, mais là, de tout ce que tu as subi, ça va t'arriver, c'est fini pour toi. Là, le policier baisse mon caleçon de manière volontaire et violente. Il avait enlevé ses gants. Et à ce moment-là, en fait, le policier qui était au niveau de mes jambes, il a introduit son doigt dans mon rectum. Et là, j'ai vraiment eu une réaction. Je dirais pas violente dans le sens où j'ai été violent avec les policiers. C'est mon corps a réagi de façon violente. Ça veut dire que j'ai jamais senti un mouvement pareil dans mon tel corps. Et ce réflexe-là que j'ai eu, c'est ce qui a fait en sorte que le policier a aussitôt ressorti sa main. Je commençais à crier de partout. En fait, dans le commissariat du 19e, la salle de fouille et l'accueil de la police, et notamment les cellules, sont réellement collées. Donc il n'y a personne qui peut me dire qu'il ne m'a pas entendu. C'était vraiment des cris de détresse, des cris de souffrance, des cris de douleur, des cris de choc.
Après ce viol, les deux fonctionnaires vont le traîner sur plusieurs mètres. Tommy sera menotté à un banc dans un couloir. Les deux policiers lui remontent son caleçon, mais le laisse là au sol, quasi nu. Il va rester plusieurs dizaines de minutes prostré sous le regard des autres fonctionnaires.
Je suis au sol, je suis allongé, je regarde, je dirais pas le ciel, mais je regarde le plafond. Et j'arrive plus à parler dans le choc du viol que j'ai subi, dans le choc des coups que j'ai subis. J'arrivais plus à respirer. Et là, les policiers, en fait, ils étaient tous autour de moi et ils s'en foutaient littéralement. Il n'y en a pas un qui a une seule réaction. Les seules réactions qu'il y avait, c'était des moqueries. On m'appelait Théo. J'entendais Théo, 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 Théo. Ah, on t'a fait une Théo, à ceci, à cela. Et j'avais aussi plusieurs remarques. Hey, t'as mis combien de doigts ? Ça va, le doigt, il n'était pas trop grand.
Tommy va passer 48 heures en garde à vue. Il sera auditionné à plusieurs reprises. À chaque fois, il va raconter son calvaire, mais sa parole est souvent ignorée ou remise en question.
Au bout de 3-4 questions, l'avocat lui fait la remarque que je ne souhaitais que j'ai demandé et à ne pas répondre aux questions et de faire que des déclarations. J'indique à l'officier de police judiciaire qui était en face de moi que j'ai été violé, que j'ai été violenté, que j'étais pas bien et que j'avais besoin d'aller à l'hôpital. Et à ce moment-là, le policier me dit « Mais qu'est-ce qui ne nous prouve pas que vous êtes rentré un doigt dans le cul tout seul ?» Et sauf que moi, à ce moment-là, je suis choqué. Et je me dis « Ah ouais, là aujourd'hui, en fait, ils vont me la faire comme ça. »
Finalement, à force d'insister, Tommy va être présenté à un médecin qui va constater les marques et effectuer un prélèvement ADN. Street Press a pu consulter le compte-rendu. Ce document indique que Tommy a des lésions anales.
Je vois une femme médecin. De là, je lui raconte ce qui m'est arrivé. Et directement, en fait, elle était choquée. Elle était choquée et elle m'explique que je dois passer des tests par rapport notamment au viol pour essayer de retrouver de l'ADN. Et elle m'explique aussi l'importance de ces tests. Moi, au début, quand j'étais en garde à vue, je voulais vraiment les faire. Mais sauf qu'arrivé sur le moment, j'ai eu un petit moment de doute parce que vous dites que vous êtes un homme. Et que ce soit pour un homme ou pour une femme, ça restera toujours compliqué d'être violé, de devoir faire des tests. Bon, en fait, à ce moment-là, j'étais en larmes, j'étais pas bien. Je suis un homme, mais un homme, ça peut pleurer. Quand vous vivez des choses difficiles, des moments qui vous sont difficiles, vous craquez. Et je pense que pas mal de personnes auraient craqué à ce moment-là. Ce qui m'a motivé à les faire, c'est quand le policier m'a dit « Mais qu'est-ce qui me prouve que tu t'es pas rentré un doigt dans le cul tout seul ?» Et là, en fait, je voulais vraiment optimiser mes chances pour notamment qu'on retrouve de l'ADN au niveau de mes parties, de là où le policier m'a violé.
Pour le protéger, le docteur va le garder à l'hôpital jusqu'à la fin de sa garde à vue. Après 48 heures, Tommy est enfin libéré. Il rentre chez lui, prend une douche, se repose quelques heures et se rend à l'IGPN, la police des polices, pour porter plainte.
Je ne peux pas témoigner à visage découvert, dans le sens où, comme j'ai subi des remarques par rapport à Théo, par rapport à ceci, par rapport à cela, je veux pas devenir une référence. Je veux pas qu'on dise que mon nom, Tommy, soit connu par rapport à un viol que j'ai subi en garde à vue. Et ça devient grave. Mais moi, la seule chose aujourd'hui dont je suis fier de moi, c'est que j'ai tout fait dans l'ordre. J'ai tout fait dans l'ordre. Je suis resté calme du début jusqu'à la fin. J'ai fait les démarches qu'il fallait du début jusqu'à la fin. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'attends une réponse de la justice. Je sais que une plainte, ça met du temps. Une instruction, ça met du temps. Mais déjà, dans un premier temps, que ces deux policiers-là soient suspendus, qu'ils ne peuvent plus exercer en attendant une réponse de la part de la justice pour que ma dignité me soit rendue. Elle ne me sera jamais rendue, ma dignité, après ce qui m'est arrivé. Mais pour qu'il y ait une justice.
Et donc après ce témoignage plutôt rude à entendre, on va passer à un autre sujet qui a absolument rien à voir, un peu plus léger, ça c'est sûr. Je vais vous parler de cookies. Et donc des cookies et notamment, pas des cookies des gâteaux, mais des cookies d'ordinateur, comme on dit. Voilà, parce qu'on sait tous ce que sont actuellement Les cookies, donc c'est des petits gâteaux en théorie pleins de petites pépites et qu'utilisent pas mal de sites web pour diverses raisons. Alors, quelles que soient ces raisons, les informations qu'ils contiennent restent et sont à caractère personnel et sont utilisées par les sites pour se souvenir de vous. Alors, quand je dis se souvenir de vous, c'est souvent avec des gros enjeux publicitaires derrière. Donc voilà. Et jusqu'il n'y a pas très longtemps, en fait, on avait au mieux un message qui nous demandait si on acceptait ces fameux cookies. Mais la plupart du temps, c'était soit juste une notification, soit rien du tout. Et donc, c'était plutôt aux personnes de bloquer de manière plus générale les biscuits agressifs. Mais depuis quelques temps, vous avez dû remarquer que maintenant, on a des listes beaucoup plus exhaustives sur les types de cookies qu'on peut accepter ou refuser. Alors, du coup, ça visibilise beaucoup plus ce à quoi ils servent. Alors, ce petit changement, pardon, s'inscrit dans le cadre de ce qu'on appelle la RGPD, où les sites sont dans l'obligation de demander l'autorisation de récolter donc ces fameux cookies. Et donc, ils doivent présenter un peu les informations qu'elles prennent et à quoi elles servent. Alors, c'est souvent vite fait. Mon effet de manche.
Une brillante idée du docteur Cocteau. Greffer sous la peau une micropuce bio-organique. Dans toute la ville, des détecteurs localisent n'importe qui à tout instant.
Ce truc fasciste me donne envie de vomir.
Voilà. Mon effet de manche un peu à rebours. Mais donc, du coup, voilà, c'est un truc de surveillance, en fait. Faut bien le comprendre comme ça. Et donc là, avec l'arrivée de cette obligation de montrer ce à quoi servent les cookies, bah, l'ambiance générale est plutôt de se méfier de tout ça. Et donc de refuser un peu plus systématiquement les cookies. Et alors, c'est là où j'en viens au cœur du sujet de tout ce que je suis en train de dire depuis tout à l'heure, c'est que Google, voyant que ça commence à être un peu pénible, ces histoires de cookies, a décidé de ne plus les utiliser d'ici 2022. Et oui, vous avez bien entendu, il ne veut plus utiliser les cookies. Donc on pense que c'est une super nouvelle et tout. Hein. Et bien en fait, pas du tout, du tout, du tout. Il y a une entourloupe, et l'entourloupe s'appelle Flock. Et Flock, et ben quoi, c'est une nouvelle manière de fliquer sans passer par les cookies que tout le monde déteste. Donc c'est pratique. Donc la différence avec les cookies, c'est que le traçage ne sera plus lié aux sites en eux-mêmes. Parce qu'il faut savoir que les sites, les cookies, c'est les sites, un site que vous consultez, c'est le site en question qui va décider si oui ou non il utilise des cookies ou pas. Il veut mettre en place les cookies ou pas. Donc là, ce sera plus lié au site, mais lié au navigateur. Et donc le navigateur de Google, c'est quoi? C'est Chrome et Chromium. Donc voilà, vous avez bien retenu ces deux noms. Deux navigateurs qu'il ne faudra plus utiliser à l'avenir, donc, si vous l'utilisez. Et oui, donc avec... parce que dans ce cas-là, si un site décide justement de ne pas mettre en place les cookies, et donc de ne pas tracer la personne, et ben en fait, Flock va s'affranchir de cette mise en place, ou non des cookies, et va récolter les informations. Donc, il faut savoir que a priori, les sites pourront quand même signaler à Chrome qu'ils ne souhaitent pas récolter les données. Mais on se rend compte que dans le processus, c'est par défaut, on donne les données. Et si jamais tu penses à mettre en place le truc technique qui va faire que tu ne veux pas les filer, il va falloir que tu le fasses. Donc, Flock a été mis en place clairement pour les annonceurs publicitaires. Alors, je vous présenter en deux phrases le principe de Flock. En gros, le navigateur Chrome ou Chromium va générer des groupes, enfin des cohortes d'utilisateurs avec des historiques de navigation. Donc, ils sont voilà. Donc, les historiques de navigation vont être mémorisés et ensuite les annonceurs vont sélectionner des publicités liées à ces cohortes-là. Et donc voilà, donc vous allez être ciblé en fonction de ce que vous consultez. Donc c'est un peu comme maintenant, sauf que ça sera complètement chaperonné d'une part par Google et en plus sous le non-contrôle des sites eux-mêmes. Donc c'est plutôt sympa, moi je trouve. Voilà. Hein. En tout cas, quand on apprend ça, on se dit qu'au final, on pourrait presque trouver les cookies super. Et peut-être qu'on ne pourra pas se demander si ce n'est pas un coup de pub d'ailleurs, mais pour qu'on puisse accepter ces fameux cookies. Enfin bon, voilà. C'était pour parler en fait de Flock et de la. Et les cookies qui existent d'ailleurs depuis 1990, mais peut-être n'existeront plus avec Flock.
And now in the Canu Info.
Rubrique internationale. International.
Rubrique.
Cronaca internazionale.
Rubrique internationale, mais aussi rubrique un petit peu nucléaire, puisqu'on part à Fukushima. Fukushima, vous le savez, accident nucléaire il y a 10 ans cette année, une grosse catastrophe à peu près égale à Tchernobyl, mais sauf qu'on n'a rien vu à Fukushima. On va vous lire un texte qu'on trouve sur lundi matin. On sait que, mettant un terme à 7 années de débat sur l'usage des eaux de décontamination de la centrale sinistrée de Fukushima, accumulée à raison de 141 tonnes par jour, le gouvernement japonais a eu l'idée de génie de tout balancer à la mer. Ce sont plus de 125 millions de tonnes d'eau contaminées qui vont être déversées dans l'océan. Si on a toutes les raisons de s'inquiéter pour les poissons et les algues, il semble que les humains ne soient pas mieux lotis, comme nous le raconte Christine Ferret, qui a longtemps vécu au Japon et qui suit toujours de près son actualité, en particulier nucléaire. Le jeudi 25 mars, en l'absence de tout représentant étranger pour cause de pandémie, la flamme olympique est partie du J-Village, centre sportif du département de Fukushima, pour une traversée de 121 jours, devant la conduire au stade national de Tokyo pour la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques prévue le 23 juillet. Quelques semaines plus tard, le 13 avril, le Premier ministre, Yoshihide Suga, annonçait le rejet dans l'océan Pacifique de l'eau contaminée provenant des réacteurs de la centrale nucléaire Fukushima Daiichi, alors que les capacités de stockage avaient atteint leurs limites au sein de la centrale, avec 1,25 million de tonnes d'eau contaminée. Pour le gouvernement japonais, l'enjeu de la bataille lancée en 2017 consiste à faire revenir sur les lieux de la triple catastrophe du 11 mars 2011 une population qui a largement fui les zones toujours frappées par la radioactivité et pourtant déclarée sans danger pour la santé. 160 000 personnes ont été évacuées au cours de la période qui a suivi le tsunami et l'accident nucléaire et 27 000 évacuées volontaires, entre guillemets, ne résidant pas dans les zones d'évacuation forcée, ont perçu des aides au relogement jusqu'à ce que les autorités japonaises décident de repeupler à tout prix la région de Fukushima en mettant fin aux allocations pour inciter leurs bénéficiaires au retour. Si le repeuplement des zones sinistrées est si important pour les autorités japonaises, en dépit des alarmes lancées par l'ONU ou par Greenpeace sur la situation environnementale et l'échec des campagnes de décontamination, on a quand même 14 millions de mètres cubes de sol radioactif qui sont conservés dans des sacs en plastique, c'est avant tout pour préserver son image face à la communauté internationale et montrer que la situation est sous contrôle, alors que les JO ont été maintenus contre vents et marées et que la politique énergétique en faveur du nucléaire n'a pas été démentie malgré la défiance de la population. Afin de rendre compte par magie, afin de rendre comme par magie certaines zones de nouveau habitables, le niveau officiel d'exposition annuelle à la radioactivité a été relevé à 20 millisieverts par an, soit le taux maximum pour les travailleurs du nucléaire en France. Dans cette région de Tohoku, très rurale et faiblement peuplée, 75% des territoires sont occupés par des forêts. Et la sylviculture constituait autrefois une ressource importante. Or, il est impossible de décontaminer les forêts, frappées d'inaccessibilité pour les décennies, voire davantage. Dans un tel contexte, les réfugiés du nucléaire sont exposés soit à la précarité, après l'interruption des subventions, soit aux radiations. En février 2021, on comptabilisait encore 41 000 évacués, dont 2 000 résidant toujours dans les logements provisoires. Autre problématique, les réfugiés n'ont pas tous le même statut, avec d'un côté les réfugiés contraints de quitter leur habitation sur décision gouvernementale, et de l'autre donc les réfugiés entre guillemets volontaires, qui ne vivaient pas dans les zones reconnues comme fortement contaminées. Selon les cas, le montant des indemnisations n'était pas le même, entraînant frustration et rancœur, en plus des symptômes post-traumatiques enregistrés. Alcoolisme, dépression, isolement, séparation des familles, dépaysement forcé suite aux reconstructions sans âme. À l'heure actuelle, le niveau de peuplement de la région de Fukushima n'est que de 20% par rapport à celui d'avant l'accident, déjà très faible, comparable à celui de la Corse. Face à l'échec de ces tentatives pour faire revenir en masse les populations, le gouvernement japonais a mis en œuvre un autre dispositif. Des subventions allant jusqu'à 2 millions d'yens, donc environ 16 000 euros, seront versées aux personnes issues des métropoles de Tokyo ou Osaka, désireuses d'aller s'installer pour au moins 5 ans dans l'une des 12 communes à proximité immédiate de la centrale et d'y développer une activité. Pour les Japonais ayant quitté la zone et souhaitant s'y réinstaller, les indemnisations pourraient atteindre entre 1,2 million et 800 000 yens, donc 9 500 ou 6 350 euros. Le gouvernement financera pour les trois quarts les créations d'entreprises. Dans les villages où le lien social a déjà passablement été distendu par la catastrophe, les départs et relogements forcés qui ont suivi, l'arrivée massive de citadins guère familiers avec cet environnement rural risque de ne pas être accepté facilement par la population locale et de créer un nouveau sentiment d'injustice. Il n'est pas certain que, même à ce prix cher payé, les gouvernements japonais soient en mesure de redorer totalement son blason vis-à-vis de la communauté internationale, au sein de laquelle les rejets d'eau contaminée dans un océan partagé avec de nombreux pays a déjà créé un certain émoi.
Et on fait quoi maintenant ?
Devine, mon premier est une personne qui n'a pas mangé. Mon second est oui, en russe. Et mon tout est un outil permettant d'associer des actions et des moments et d'organiser ainsi son temps. C'est...
L'agenda !
Et oui, c'est l'agenda, et qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il fasse beau, mais surtout là, qu'il pleuve. Et bien demain, c'est le 1er mai, il y a plein d'appels pour se retrouver à Jean Masset à 10h30. Et on va vous en lire quelques-uns. On peut vous dire par exemple qu'il y a un appel à un ping block pour demain matin. Donc rendez-vous demain à 10h30 pour former un ping block. Venez avec votre plus belle saprose. C'est un cortège en mixité choisie LGBTQIA+. On va vous lire un extrait de leur communiqué. Nous sommes là, nous sommes visibles. Nous, membres de la communauté LGBTQIA+, formons un pink bloc pour montrer l'importance de la lutte pour les droits des travailleurs et des travailleuses dans les luttes queer. Au quotidien, nos luttes sont invisibilisées par l'État. Les oppressions qu'on vit au travail ne sont pas prises en compte. Face à un patron, nous sommes obligés d'expliquer qui nous sommes, d'où on vient, de justifier notre identité de genre, de notre passing. On se voit refuser l'accès à l'emploi pour nos orientations sexuelles et identités de genre. On est harcelé. On est discriminé par les collègues, les patrons et les institutions. La lutte contre nos oppresseurs passe par la lutte contre le patriarcat et le système hétéronormatif, mais aussi contre le capitalisme et ses patrons qui bafouent nos droits et nos existences. Nous nous placerons ce 1er mai devant les syndicats, non pas par dédain pour leur méthode de lutte, mais parce que nous ne sentons pas représentés par eux lors de cette journée, et choisissons d'être présentes à notre manière, afin de porter nos propres revendications, via nos propres méthodes de lutte. Le Pink Bloc est un endroit autogéré, où chaque personne a sa place. Nous rappelons qu'il n'est pas un moyen d'opposition au Black Bloc, mais une autre manière de pratiquer cette radicalité, dans une non-mixité LGBTQIA+, puisque certains blocs, comme partout, il y a des pratiques oppressives, d'où la nécessité pour les personnes queer de s'organiser de cette manière, puisque les personnes du Pink Bloc restent solidaires des autres blocs. Le but est de donner une visibilité combative aux luttes LGBTQIA+, et un cadre radical où nous décidons nous-mêmes de nos modes de lutte. Cet espace a pour vocation d'être inclusif et représentatif de la diversité de notre communauté. Nous rappelons l'importance de la place des personnes non blanches, handicapées, précaires, minorisées, du fait de leur genre et de leur orientation sexuelle, travailleurs, travailleuses du sexe, et nous appelons au respect de la non-mixité LGBTQIA+. Nous vous invitons à venir dans la tenue que vous voulez, mais avec du rose pour symboliser notre appartenance au lutte queer. Brassard, foulard ou t-shirt. À demain.
Et alors là, est-ce que... Ah bah ça y est, ça marche. J'ai réglé mon problème technique pendant tout ce temps. C'est super. Alors oui, c'est toujours l'agenda. Et moi, je voulais vous dire que dimanche 2 mai, donc le lendemain de demain, il y aura à l'illégalité, du coup à Villeurbanne, qui est un squat à Villeurbanne, une après-midi de jardinage. Du coup, vous pourrez venir bêcher, fabriquer des bacs et tout, et même manger des frites. Voilà, donc ce sera à 12h.
Et par ailleurs, il y a 5 siècles après l'invasion du Mexique par les Espagnols, il y a les Zapatistes qui viennent pour la première fois en Europe. Et à cette occasion, il y a une commission à Lyon qui s'est créée. Et cette commission, donc, elle a plusieurs objectifs, mais notamment d'organiser des événements, tout ça, quand les Zapatistes seront là. Et la prochaine réunion se tiendra aussi le dimanche 2, donc dans 2 jours aussi, à 14h à la Friche Lamartine, qui est au 21 rue Saint-Victorien, dans le 3e.
Ah là là, mais quelle journée ce lendemain de demain, dimanche 2, à partir de 14h, il y a résistance et convivialité. Où ça? À l'espace communal de la Guille et son annexe. Dimanche 2 mai, à partir de 14h, le CG, donc l'espace communal de la Guillotière, 45 rue Béchevelin, et son annexe, qui est 27 rue Salomon-Rénache, pardon, vous invite à passer une après-midi centrée sur le refus des expulsions potentielles de ces deux lieux. Le CG, ouvert en décembre 2019, et son annexe, ouverte en janvier 2021, héberge une quarantaine d'exilés. Nous tentons d'organiser sur ces lieux la solidarité à la Guillotière en accueillant les permanents juridiques, d'entraide et de soins gratuits, un lavomatique, une distribution alimentaire hebdomadaire et tout plein d'autres belles choses. Nous souhaitons ensemble résister au processus de gentrification à l'œuvre dans le quartier, qui consiste à en exclure les classes populaires, quel que soit le parti politique à la tête de la mairie. Le CG est expulsable à partir du 1er juin 2021. L'annexe est en attente de la date de procès contre son propriétaire, Grand Lyon Habitat. Le bailleur social, entre gros guillemets, de la métropole de Lyon possède 26 000 autres logements, dont beaucoup sont vides. Que l'on soit bien clair, nous ne laisserons pas faire ces expulsions sans rien faire. L'offensive des promoteurs immobiliers de la métropole et de la mairie contre le quartier de la Guillotière n'est pas une fatalité. Seule la construction de la solidarité de base et l'organisation collective peuvent être à même d'enrayer ce processus. C'est pourquoi nous vous invitons ce dimanche 2 mai à partir de 14h à Le Sujet et son annexe pour discuter, boire un thé, grignoter, écouter de la musique et prendre connaissance des différents outils et activités qui s'y déroulent. Nous nous réjouissons de pouvoir vous accueillir une nouvelle fois dans ce lieu qui aura su, grâce à la force collective et le soutien du quartier, rassembler cette triste dernière année plus de sens et de réconfort que l'on aurait pu imaginer. Le rapport de force politique se construit depuis là où nous habitons et luttons. Tout le pouvoir aux communes, longue vie à l'espace communal et surtout à la Guillotière.
Eh ben, moi je ne veux pas parler du 1 ni du 2, je vais parler du 8, du 8 mai. Et avec notamment la création d'un groupe local à Lyon pour Toutes aux frontières. Donc c'est un événement qui est prévu pour le 5 juin 2021 à Nice, avec un immense rassemblement donc suite à un appel à mobilisation transnationale pour une Europe sans frontières, organisé entre femmes lesbiennes et personnes trans. Et donc le 8 mai 2021, donc ce groupe local à Lyon, eh ben, y a un atelier de création de cerf-volant ouvert à toutes et à tous. Et ce sera l'occasion de faire connaître la cagnotte qui va permettre d'organiser un trajet solidaire depuis Lyon jusqu'à Nice. Donc ça sera le 8 mai entre 14h et 17h, mais peut-être qu'on vous le rappellera en temps et en heure.
Je m'appelle Marius, j'ai 14 ans et je voudrais savoir ce que ça veut dire ACAB,
Cagnotte du vendredi.
Marius, alors je vous ai bassiné avec ça tout à l'heure sur les cookies, et bien effectivement, all cookie are bastard, hein, comme on dit. Donc voilà, ACAB ça veut dire ça.
Et tout de suite, une émission de pop musique, Noise Pollution.
Et alors, on va avoir un problème, parce que là, Noise Pollution, est-ce qu'ils nous entendent? Parce que si je mets les bandes, continue, on va essayer.
Vous embrayez direct ou pas?
Ah, ils répondent pas, on va essayer, on va voir ce qui se passe. They got them yappers and them choppers, knock you off your feet. You'll never know the struggle, what it's like to compete. Now you'll never know the struggle, watch your mama get beat. All that back and forth, arguing is all up to question. But if you hang around bosses, you'll be the next legend. Mama told me count them sins, but...